Ok.
Super introduction.
Le petit texte. Parce que en parlant de printemps, je voulais débuter par cette photo. Donc moi, je vais vous parler de pollinisation, comme tu l'as très bien introduit. Et cette image, je l'ai prise, bon, avec mon portable, elle n'est pas de très bonne qualité, mercredi, donc il n'y a même pas une semaine. À un moment, donc là on est en fin d'après-midi dans un grand verger d'abricotiers, donc dans le département de la Drôme, donc en pleine vallée du Rhône, sur un très grand territoire, quasiment entièrement destiné à la production de fruits, à la production arboricole. Et à ce moment-là, j'accompagnais un apiculteur. Là, on voit les branches d'abricotiers qui commencent à fleurir. C'est sûrement une variété orange red, qui est une variété très précoce. J'accompagnais cet apiculteur dans le cadre de ma thèse. Et on venait de disposer une trentaine de ruches. Donc là, vous en avez trois sur la palette. Un, deux, trois. Les entrées, elles sont là. Là, la petite tache noire, c'est des abeilles qui commençaient tout juste à sortir. Cet apiculteur, en fait, il produit du miel dans la vallée. Et il destine une partie de ses ruches. Il a 150 ruches, donc c'est pas un très gros apiculteur. Il destine une partie de ses ruches, non pas à la production de miel, mais à la location en direction des agriculteurs. Donc il va louer les ruches le temps de la floraison, une trentaine d'euros chacune. Il va en retirer un peu de quelques revenus. Et l'agriculteur, lui, espère, donc là c'est un arboriculteur, que l'activité des abeilles, les abeilles vont chercher à se nourrir dans la culture, aller chercher du pollen, aller chercher du nectar. Donc elles vont féconder les fleurs par leur activité, et ce qui va permettre d'améliorer le rendement. Donc autant sur le plan quantitatif, on aura beaucoup plus d'abricots grâce à l'activité de l'abeille, et on aura surtout des fruits bien mieux formés, donc d'un meilleur calibre, qu'on va pouvoir bien mieux valoriser sur les marchés. Donc ça, c'est une photo très récente. C'est vraiment mon terrain de recherche de ma thèse que je mène actuellement. Donc aux côtés des producteurs de fruits, des apiculteurs et des apicultrices, et aussi de tous les semenciers qui font de la semence de tournesol et de colza. Grosso modo, c'est les très grandes multinationales qui font à la fois de la semence et qui vendent des produits, des pesticides. Aujourd'hui, par contre, je vais profiter d'être là pour ne pas parler de mon terrain de recherche, mais parler plutôt d'une approche historique de plein de matériaux que j'ai, qui sont un peu dispersés dans tous les sens, dont j'ai souvent du mal à exploiter un peu, parce que c'est plein de petites choses. Mais là, profiter de la présentation pour pouvoir les rassembler. Et finalement, à travers ce retour historique, je vais prendre un peu la même question qui est celle de la thèse, et qui est celle en fait posée par Jason Moore, c'est quelles sont les pratiques et les situations qui construisent l'abeille et d'autres insectes pollinisateurs comme, alors là il y a plein de termes qui peuvent être utilisés, des êtres au travail, des outils de production, des outils vivants, des facteurs de production. Donc moi ça je le fais de manière ethnographique, hein, en suivant les personnes qui travaillent au contact des abeilles. Soit qu'ils les louent comme les apiculteurs, soit qu'ils les utilisent comme les agriculteurs. Et là, je vais le faire un peu de manière historique, en revenant il y a un siècle en arrière, au tout début dans les vergers de Californie. Bon, je vais revenir là-dessus dans un premier temps. Après, je vais parler de l'Algérie coloniale, qui a utilisé aussi les pollinisateurs. Je vais un peu parler, après la Seconde Guerre mondiale, de ce qu'on met derrière l'abeille à ce moment-là en tant que pollinisateur. Puis je vais parler d'autres insectes, les mégachiles et les bourdons, afin de tisser un peu d'autres histoires interespèces qui sont très déterminantes pour certaines cultures spécifiques. Ah oui, j'ai oublié d'acheter ça. Bon, je voulais vous acheter une tomate, vous verrez pourquoi, mais du coup il n'y aura pas de tomate. Mais bon, voilà, vous verrez que si vous mangez une tomate actuellement, ça veut dire beaucoup de choses. Ok, donc je commence. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, ça va être une histoire assez décousue. Mais ça va le faire. Et l'idée, l'idée, c'est pour rebondir sur ce que tu as dit, le texte de Morisot, quand il parle de cadeaux des pollinisateurs, l'histoire que je vais faire, elle va, même si je pense que c'est pas son but, elle va un peu aller à l'inverse de ça, et de montrer qu'en fait, les pollinisateurs ne nous font pas forcément de cadeaux en pollinisant dans les cultures, mais que leur présence même dans les cultures est le fruit de la modernisation agricole et du système de plantation qui a su capter ces forces de travail, ces forces vivantes, pour répondre à certaines de leurs ambitions, celles de la production, production agro-industrielle. Donc on quitte la Drôme. Je ne sais pas ce que c'est ma prochaine image. Oh, voilà. On quitte la Drôme pour partir donc aux États-Unis à la toute fin des années 1890, donc il y a déjà 130, 140 ans. À ce moment-là, dans les vergers états-uniens, les agronomes sont confrontés à un certain problème, c'est de voir que les arbres fleurissent. Donc on a des beaux arbres avec beaucoup de fleurs, mais le problème c'est que ces fleurs ne vont pas déboucher sur une production de fruits. Donc là, il y a pas mal d'études qui démarrent. Et il y a Merton B. Waite, qui est un agronome du service de l'agriculture américain, qui publie un ouvrage qui s'appelle Pollinisation des fleurs de poirier, pardon, et en fait qui va montrer que sur les 36 variétés qu'il a analysées, 22 sont autostériles. Autrement dit, truc technique, ça veut dire que ces arbres, les fleurs ne peuvent pas être pollinisées, fécondées par le pollen des arbres en question. Il faut forcément que ça soit un pollen apporté par une autre variété de poirier. Donc là, il commence en fait à expliquer pourquoi on voit des fleurs, mais par contre pourquoi ça ne devient pas des fruits. Et la raison va être de dire en fait il faut un apport de pollen d'une autre variété. Et alors là, va commencer à s'engager énormément d'études pour essayer de trouver les croisements les plus intéressants entre les arbres fruitiers. Donc on a plein de méthodes expérimentales, on va encager les arbres pour isoler certaines conditions. Tantôt on va mettre des ruches à l'intérieur, tantôt on va pas mettre de ruches. Là c'est pour croiser la variété French avec celle impériale dans les prunes. Bref, on a tout ça qui s'engage et sur 20 ans, donc des années 10, 1895-1920, essentiellement en Californie, à la station de Berkeley qui est rattachée à l'université de Californie, on va passer en revue tous les arbres fruitiers. On va avoir les pommes, les amandes, on va avoir les abricots, on va avoir les prunes, il va y avoir les pommes. On va dresser des tableaux de floraison espèce par espèce pour déjà voir si les espèces, si les variétés fleurissent au même moment. Parce que déjà, il faut être s'assurer que les variétés peuvent fleurir au même moment pour qu'elles soient croisées. Et toutes ces études, en fait, elles vont commencer à construire l'abeille dans un rôle déterminant, celui de transporter le pollen d'une variété à une autre. Sur pas mal de variétés, c'est possible en fait de se reposer sur l'action du vent, mais bien évidemment, on veut maximiser le rendement, on veut donc rationaliser ce transport du pollen, et on va conférer ce rôle-là à l'abeille. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans les revues agricoles de l'époque, donc de ce début du XXe siècle, l'abeille devient vraiment la solution miracle, une source d'abondance, avec tout un argumentaire. En fait, on va énumérer des dizaines et des dizaines de cas d'un producteur qui a planté des cerises mais qui n'avait pas de fruits et qui d'un coup installe des ruches et qui a des tonnes et des tonnes de fruits. Enfin voilà, vous voyez un peu tout le récit qui est fait, donc l'abeille comme solution miracle. À cette époque-là, donc se développe en fait le verger, ce qu'on appelle pour moi, ce que j'appelle le verger moderne. Autrement dit, on va installer des arbres pollinisateurs dont leur rôle, on ne va pas les récolter. Donc ça, il faut s'imaginer que c'est des alignements d'arbres, comme sur cette photo. Là, c'est un verger d'abricots dans Valley Cali, enfin, proche de Los Angeles, en 29. On va planter des arbres pollinisateurs au milieu, dont on ne récoltera pas les fruits. Le rôle, c'est juste qu'ils produisent du pollen et on récoltera seulement ces arbres-là. Donc ça, c'est un aménagement de verger particulier. On peut avoir d'autres aménagements qui sont trois lignes, trois rangées d'arbres producteurs, et puis on va mettre une rangée entière d'arbres pollinisateurs. Après, voilà, suivant les difficultés de pollinisation, suivant les périodes de floraison, plus les arbres fleurissent tôt, plus c'est difficile à polliniser, parce que plus il va faire froid, moins l'abeille va sortir dans la culture. Bref, on a tout un système d'arrangement. Et au moment où se développe le verger moderne et au moment où il y a un très fort besoin d'abeilles, ce qui tombe assez bien, pour le dire autrement, au moment où se fait embarquer l'abeille dans la culture, du même coup, on embarque les personnes qui élèvent des abeilles et donc les apiculteurs et les apicultrices. Ce qui tombe bien à ce moment-là, c'est que l'apiculture aux États-Unis est vraiment en train de se mécaniser. Donc on commence déjà à mettre les ruches sur des camions. Là, c'est une photo dans les années 30, pour les déplacer déjà sur des distances assez importantes. Et même si c'est un peu difficile à dater, on estime que vers 1909-1910, les apiculteurs commencent à louer les colonies d'abeilles et donc à empocher de l'argent en échange de cette location, environ 2 à 3 dollars par ruche louée. Sachant que ce qui est assez, enfin moi j'avais pas eu ça en tête parce que je connais peu l'histoire américaine, mais quand on dit qu'en 1900 on commence à louer, 1909 on commence à louer des colonies d'abeilles en Californie, les premières ruches arrivent en Californie en 1850 avec le processus de colonisation. Donc en fait l'abeille domestique est même pas présente depuis 50 ans sur ce territoire de la Californie, qu'elle se trouve embarquée en tant que pollinisateur et agent productif. Jusqu'à présent, les insectes en fait qui assuraient la pollinisation des vergers et des arbres fruitiers, c'était cette grande catégorie des pollinisateurs sauvages. Donc il y a les bourdons et il y a tout un ensemble d'abeilles solitaires. Le problème, c'est que ce verger moderne va complètement décimer la faune des pollinisateurs sauvages, tout d'abord par l'usage des arseniques, c'est l'arrivée des arseniques à ce moment-là. C'est aussi, là on voit, on ne sait pas trop, peut-être quelques pollinisateurs qui peuvent vivre dans la terre, on ne voit pas trop des endroits où ils pourraient nicher. Ce qu'on leur donne, c'est une unique ressource, ces fleurs d'abricotier, pendant seulement 2 semaines dans l'année. Donc impossible de maintenir des populations d'insectes pollinisateurs. Et en fait, l'abeille, déjà dans les années 20, on a clairement conscience de ça, entre guillemets, Roots, qui est un apiculteur qui a écrit des grands ouvrages en apicole, enfin d'apiculture à ce moment-là aux États-Unis, dit clairement que l'abeille est consacrée dans un nouveau rôle pour prendre la place de celui des pollinisateurs sauvages qui assuraient la pollinisation des cultures jusqu'à présent. Et là, on va voir un peu le cercle vicieux qu'on va en fait voir à pas mal de moments. C'est qu'au moment où des pratiques agricoles sont en train de décimer la faune des pollinisateurs sauvages, et qu'il faut remplacer ces pollinisateurs sauvages qui jusqu'à présent pollinisaient, on va introduire l'abeille dans les vergers, et donc dès lors, on va introduire le cercle vicieux de mettre dorénavant en contact l'abeille avec ces mêmes pratiques, monoculture, utilisation intense de pesticides, donc mettre l'abeille, augmenter le danger vis-à-vis de l'abeille. Toujours dans ces années 30, les revues d'apiculture en France se font l'écho de cette situation américaine. Très rapidement, il y a des articles en fait, qui sont traduits. Et on va se servir en fait, de cet exemple de la location de colonies d'abeilles à destination des agriculteurs pour faire valoir tout l'intérêt qu'il y a à protéger les abeilles déjà en France, parce qu'il y a déjà des problèmes avec des arseniques, donc des produits pesticides. C'est aussi l'occasion de rappeler qu'il faut investir dans les ruches écoles et développer l'apiculture en France. Et en fait, commence à émerger déjà ce discours politique de l'abeille en tant que pollinisateur à protéger dans les cultures. Donc, dès les années 30, les apiculteurs français se servent du cas états-unien pour introduire ceci. Et aux États-Unis, c'est exactement pareil. Enfin, il y a un peu les mêmes combats qui sont menés. Il y a une autre réaction dans les revues françaises, un peu différente, en fait, qui va s'écarter du cas américain pour dire, heureusement, nous n'en sommes pas encore là. Et on parle des États-Unis comme d'une situation anormale. Et je cite un ingénieur agronome dans la revue L'Apiculteur, qui est la grande revue d'apiculture en 1936, qui dit, dans nos pays, en raison de la variété des cultures et du morcellement de la terre, une technique aussi rigoureuse n'est ordinairement pas indispensable. Les abeilles de nos ruchers suffisent le plus souvent à assurer la fécondation des vergers et des cultures. Autrement dit, en France, on a encore un gros morcellement des plus petites parcelles et la présence de nombreuses ruches dans les fermes, ce qui assure donc une pollinisation. Voilà. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prise en charge rationnelle de la pollinisation, parce qu'on peut considérer qu'à partir du moment où on commence à installer des ruches aux abords de sa ferme, quelques ruches pour polliniser ses vergers aux alentours, c'est déjà une prise en charge, mais il n'y a pas ce passage de l'abeille sous la forme marchandise et en location. L'écho, il va être vraiment différent, toujours dans ces années 30, dans l'Algérie coloniale. Bon, ça, la photo vous dit. Bon, je vais revenir après là-dessus. Parce que la pollinisation va accompagner, en fait, ce qui marque l'agriculture coloniale fruitière dans les années 30, c'est celle de la modernisation, mais aussi de la standardisation. Il y a un historien, sociologue, historien, Antoine de Raymond, qui a travaillé sur cette question de l'arboriculture et donc de la production de fruits en Algérie. Donc j'ai pu croiser pas mal des données que j'avais moi dans les archives. En fait, à ce moment-là, toute la production en Algérie est exportée sur les marchés français. Le grand avantage étant que ce sont des produits primeurs, autrement dit, ils arrivent en pleine période hivernale. Donc au moment où en France, on n'a plus de légumes frais sur les étals. Donc c'est des importants débouchés pour l'agriculture coloniale. Le problème c'est, et là écho très contemporain, c'est qu'il y a déjà le problème de l'importation des agrumes espagnols qui sont en forte hausse, qui déstabilisent les productions algériennes et le discours que les agrumes ne sont pas soumis aux mêmes contraintes en Espagne, etc. En 1934, les autorités fixent des mesures de protection et donc interdisent l'importation de certaines denrées espagnol pour soutenir la production en Algérie. Et là, à ce moment-là, va s'engager un grand élan de standardisation assez généralisée de la production. Une standardisation déjà dans les dispositifs d'organisation des producteurs entre eux, donc les sortes de coopératives, etc. Une standardisation de l'accès au marché. L'historien Antoine de Raymond parle de l'invention de la grande distribution dans ces années-là, avec les cas algériens, parce qu'en fait, il faut vraiment arriver à exporter les agrumes, qu'elles restent fraîches par bateau. Enfin bref, il y a plein de. Donc, voilà, donc c'est dans plein de pratiques pour régler ces problèmes-là. Et surtout, on va moderniser la production agricole même, donc avec l'irrigation, choisir les bons porte-greffes sur les arbres, les bonnes semences, la mécanisation. Et bien entendu, on va faire de l'abeille un des leviers d'action de cette modernisation. Julien Brichet, qui est un agronome à Alger à l'époque, spécialisé en arboriculture, il déclare dans les années 30, donc dans l'Afrique du Nord agricole, qui est un hebdomadaire voilà, colonial, il nous dit, avec le développement des plantations commerciales constituées par une variété unique ou un nombre très restreint de variétés d'une même espèce, plantées à de grands intervalles dans des vergers isolés ou de toute façon éloignés, la production fruitière se trouve de plus en plus dominée par la question de la pollinisation et de l'interfécondation des fleurs. Donc là, on a toute une série de recherches qui sont menées sur le même modèle que celles conduites en Californie. Donc là, on a un exemple sur le clémentinier. Et toujours Julien Brichet nous dit que les amis américains ont compris cela et sont créateurs de la plantation standard. Donc il faut suivre ce modèle. Le planteur doit toujours veiller à planter des variétés pollinisatrices, aménager le verger en conséquence, quelle que soit sa composition, et le rationalisme le plus élémentaire leur commande de le compléter par un rucher. Donc autrement dit, un apport de ruche, un rucher étant un rassemblement de ruches. Pour montrer qu'en fait, il y a vraiment des liens entre l'Algérie et la Californie, en 1933, il y a un voyage d'études des colons qui est fait en Californie. Brichet y participe, il a un rôle très notable puisqu'il parle anglais. Il avait déjà traduit pas mal d'articles sur la pollinisation, sachant que le voyage d'études, c'est pour l'agriculture en général, mais ils prennent pas mal d'informations sur la pollinisation. Et à leur retour, le gouverneur général déclare que dans le rapport, enfin que le rapport souligne la nécessité de développer considérablement l'apiculture, considérée comme indispensable à la pollinisation, avec cette idée d'arriver à la même situation qu'en Californie, une terre que les colons comparent très souvent à celle de l'Algérie, où on aurait des conditions météorologiques similaires et un même développement d'une zone entre guillemets désertique, un pays pauvre qui deviendrait un modèle en arboriculture, etc. Donc là, on va avoir le développement de tout un tas de ruchers écoles, donc pour apprendre l'apiculture à tous les jeunes algériens et algériennes dans les écoles. Et quand on dit se former en apiculture, c'est se former selon les méthodes modernes en apiculture, donc avec un certain type de ruche, celle que vous avez vue aux photos au tout début, et donc non plus l'apiculture primitive et musulmane, faite avec des ruches en terre et en paille, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 1936, des personnes proposent une rencontre entre apiculteurs et arboriculteurs pour étudier la possibilité de mettre à disposition de ceux qui les désirent des petits ruchers ambulants, faciles à déplacer, à loger, qui seraient soignés par des apiculteurs professionnels et donc à destination des producteurs de fruits. Bien entendu, autant en Californie qu'en Algérie, l'abeille, elle est réduite à une simple question de transport. On la performe vraiment juste dans ses seules dimensions instrumentales en tant que facteur de production. À aucun moment, on va ne se soucier de la ressource qu'on lui apporte dans les vergers, de ses conditions de vol et de la manière dont elle pourrait se déplacer, faire son expérience d'insecte à ces endroits-là. C'est pas du tout la question. On part du principe qu'à partir du moment où on introduit une ruche, et c'est encore le cas aujourd'hui, de toute façon l'abeille va forcément chercher de la ressource, butiner, et donc augmenter le rendement. Les conditions dans lesquelles elles le font ne les intéressent pas. Bon, elle va beaucoup plus intéresser les apiculteurs, on pourra en reparler, mais là je ne vais pas aborder ça. Bon, en France, il va falloir vraiment, pour la location de colonies d'abeilles, à certains tarifs, etc., il va falloir attendre l'après-guerre. C'est un moment bon, où se développe le verger français, donc dans tout le sud de la France, hein, la région de Nîmes, la région, la plaine de... Non, pas encore la plaine de la Croix, mais vers la région de Arles, et qui commence, le verger commence à remonter dans la vallée du Rhône. Donc la vallée du Rhône, c'est au moment où on domestique, entre guillemets, le Rhône, le fleuve. On commence à mettre les barrages, donc on a une agriculture qui devient de plus en plus irriguée. Donc on capte cette première force, on a tous les paysans des plateaux ardéchois et du Vercors qui descendent dans la vallée en tant que force de travail, et on va commencer à mettre les abeilles pour soutenir ce développement. Ça, c'est une hypothèse, mais j'ai lu dans pas mal d'études sociologiques des années 70 qui portent sur les questions de production de fruits, que tous les pieds noirs et les colons qui rentrent en métropole, ce sont eux qui vont créer les plus importantes exploitations dans le sud de la France sur des très grandes superficies. Donc ils ne parlent pas du tout de pollinisation, on dit souvent qu'ils importent les méthodes les plus modernes. Donc voilà, il y aurait une hypothèse, est-ce que eux importent cette utilisation de l'abeille? Ça, je ne peux pas l'affirmer, c'est une hypothèse. Et c'est aussi le moment, dans les années 60-70, où les apiculteurs en France commencent à s'équiper mécaniquement de grues, à mettre les ruches sur palettes pour faciliter leur déplacement. C'est l'essor de l'apiculture de la grande transhumance, donc la capacité de déplacer les ruches sur des très longues distances pour aller chercher à ce moment-là différents miels. Là je parlais avec un apiculteur qui avait lancé son exploitation dans les années 70, hein. Lui mettait toutes ses ruches l'hiver vers Arles. Dès qu'il y avait les floraisons de fruitiers, donc très tôt en mars, il louait ses ruches à ce moment-là, et après il remontait dans le Jura pour aller chercher les mielées de colza au nord de Lyon, puis de sapin dans le Jura, etc. Mais tout ça, ça va plus être le début de mon terrain ethnographique et de ma recherche de thèse. Donc on pourra peut-être en parler après. Là, ce qui me semblait intéressant, c'était de quitter l'abeille domestique et donc l'apiculture pour raconter d'autres histoires interespèces et pour aborder cette question des pollinisateurs sauvages, dont on a vu que dans les années 20, ils étaient en train de se faire tuer par la méthode de plantation même dans le verger moderne. Ce qui va se passer, c'est que dans les années 60-70, commencent à émerger des projets de conservation et de domestication, on va le voir, de différents insectes sauvages, avec l'argument que certains insectes seraient plus efficaces que l'abeille dans les cultures, et que dans tous les cas, il faudrait protéger ces insectes au cas où, dans le futur, on aurait certaines cultures qui nécessiteraient leur activité. Donc en prévision de tout cela. On va avoir pas mal de laboratoires en recherche en entomologie, donc en sciences des insectes, en apidologie, en sciences de l'abeille, mais pas forcément que domestique. Suzanne Batra, qui est une des grandes représentantes de ce courant-là, par exemple, déclare que « wild bee make money, not honey ». Autrement dit, donc, les abeilles sauvages, elles ne produisent pas de miel, mais par contre, elles créent de la valeur sur les productions agricoles. C'est à ce moment-là on va commencer à s'intéresser aux États-Unis à l'osmie, donc ça c'est le nom latin, osmia cornuta. C'est souvent les Ça, c'est les hôtels à insectes qu'on voit émerger un peu partout dans la ville. Je sais pas si vous avez déjà vu ces tubes de bambou qui sont des zones de nidification pour ces petites abeilles qui vivent de manière solitaire, qui vivent dans le bambou comme ça. Ces abeilles, elles sont déjà utilisées dans les années 60 dans les vergers de pommiers au Japon, mais elles vont faire l'objet d'un très fort développement dans les années 70 aux États-Unis, notamment dans le laboratoire de Suzanne Batra, un laboratoire dont j'oublie le nom, à Beltsville, vers New York. Bon, aux États-Unis, on a d'autres domestications, d'autres petites abeilles qui vivent dans la terre, et je voudrais m'arrêter un moment sur la mégachile, qui est cette abeille toute petite. À gauche, c'est une femelle, à droite, c'est un mâle. Bon, en réalité, l'agriculture s'intéresse qu'à la femelle, parce que c'est elle, en fait, qui va chercher à élever les larves, donc qui va aller chercher la nourriture dans les cultures, et donc qui dit une abeille qui va chercher de la nourriture, dit une abeille qui involontairement déplace le pollen, fait de la fécondation, fait de la pollinisation, etc., etc. Cette petite abeille, la mégachile, elle vient d'Europe. Elle a été introduite de manière complètement involontaire aux États-Unis dans les années 30. Et dès 55, apparemment, elle est déjà très répandue sur le territoire. À la fin des années 50, on a déjà des producteurs de semences, donc ceux qui produisent des plantes pour produire de la graine, qui seront replantées ensuite. Ces producteurs commencent à aménager des sites pour essayer de maintenir ces petites abeilles proches de leur culture. Dans les années En 61, on a Stephen et Torchio, qui sont un peu les grands spécialistes de cette abeille, qui publient un ouvrage sur leur biologie et leur écologie, afin vraiment de commencer à rationaliser cette domestication au moment où cette abeille commence à être utilisée dans certains États, en Idaho et dans l'Oregon, notamment pour la semence de luzerne. La luzerne, c'est le grand trèfle, c'est une plante essentielle en élevage de bovins par exemple. Donc c'est les États-Unis et le Canada qui produisent les graines de cette plante. Et la mégachile se retrouve être l'abeille la plus efficace dans cette culture. Elle est intéressante parce qu'en fait, elle sort de sa période hivernale au moment où la culture fleurit. Elle ne vole pas très loin comparé à l'abeille qui vole à 3, entre 3 et 5 km suivant la période de l'année. Celle-ci ne vole qu'à 300 mètres autour de son nid. Donc si elle est placée aux abords de la culture, elle restera forcément dans la culture. Alors que l'abeille, le problème, c'est d'arriver à la maintenir à l'endroit qu'on veut qu'on pollinise. Ça, c'est le gros casse-tête. Et on peut faire une gestion de sa période d'hiver, les mettre dans des entrepôts frigorifiques, mais ça, on le verra, ça arrivera un peu plus tard. Donc je vais vous montrer une petite vidéo où on voit l'élevage de cette abeille, qui est une vidéo qui date des années 70. Et qui, dont le titre est très révélateur, le titre c'est Putting Wild Bees at Work. Et vous allez voir.